Retour dans les studios et nous accueillons Sarah et Solène du collectif Bure Partout, Nucléaire Nulle Part.
Bonjour.
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 Alors je vais faire un rappel de ce qu'est un peu Bure, une piqûre de rappel. Alors Bure, c'est un petit village de 92 habitants à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Alors c'est là que l'État, il y a une vingtaine d'années déjà, a décidé d'implanter à 500 mètres de profondeur un laboratoire de recherche scientifique souterrain. Alors sous ce terme de laboratoire se cache une autre réalité, c'est l'enfouissement programmé des déchets nucléaires les plus nocifs. Ce projet il est mis en œuvre par l'ANDRA, donc l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, et ce projet est appelé CIGEO, comprenait Centre Industriel de Stockage Géologique. Donc la surface du site, elle devrait atteindre 15 km² pour accueillir, pour les chiffres, 10 000 m3 de déchets HAVL, haute activité à vie longue, et environ 75 000 m3 de déchets MAVL, moyenne activité à vie longue. Voilà. Le projet devrait aussi intégrer deux sites nucléaires en surface, donc une zone de stockage intermédiaire pour accueillir les déchets le temps nécessaire à leur refroidissement, et une usine de reconditionnement afin de compacter ces déchets pour leur forme de stockage définitif. Et enfin, des infrastructures de liaison, c'est des puits verticaux pour acheminer le personnel, les engins et enfouir les déchets radioactifs. Donc ce projet CIGEO, il s'annonce comme le chantier le plus long, le plus coûteux et le plus irresponsable du siècle. Selon les estimations de l'ANDRA elle-même, il coûterait 35 milliards d'euros et la fin des travaux est prévue pour une date assez ouf de 2156. Voilà, ça devrait être fini en 2156, donc gros projet. L'opposition à ce projet, bien sûr, elle n'a jamais cessé depuis 20 ans. Hein. Pétition, bataille juridique, occupation des terres agricoles, installation dans les villages alentours et manifestation. Mais depuis là, plusieurs mois, les opposants sont victimes d'une escalade de la répression policière, hein, avec une multiplication et un durcissement des interventions, dont les perquisitions du 20 septembre dernier. On va en reparler pour parler de cette situation actuelle et des prochains événements de soutien qui auront lieu dans notre ville rose. On accueille donc Sarah et Solène du tout jeune collectif toulousain Bure Partout, Nucléaire Nulle Part 31. C'est bien, c'est ça le nom, il faut rajouter le 31. Bon, on va débuter par on va commencer par un point sur la situation actuelle à Bure. Où est-ce qu'il en est l'avancement du projet CIGEO des travaux? Qu'est-ce qui est déjà mis en place pour l'instant?
Alors, donc c'est vraiment un feuilleton multiple rebondissements. Je vous invite à aller voir le site internet vmc.camp où il y a toutes les infos. Parce que j'ai pas envie de vous noyer non plus dans un flot d'infos. Mais du coup, dernièrement, ce qui a été demandé à l'ANDRA, donc l'agence qui gère le projet CIGEO, c'est de faire une enquête d'impact. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait des scientifiques qui aillent dans le bois pour mesurer la biodiversité, les écosystèmes. Sauf que dans un bois occupé, c'est très compliqué. Donc pour l'instant, il y a un enjeu, ce serait d'évacuer le bois pour pouvoir faire cet impact, cette étude d'impact, pour pouvoir continuer le projet. Donc il y a un peu un stop. Il y avait aussi l'histoire de la cession du bois Le Jus, qui s'était fait voté par le conseil municipal en pleine nuit, donc avec personne. Au mépris des contradicteurs, donc des villageois. Il y avait eu un recours au tribunal administratif qui avait finalement retoqué la cession. Et un nouveau vote du conseil municipal qui a accepté de vendre le bois Le Jus à l'ANDRA. L'occupation est de nouveau illégale. Voilà.
D'accord, donc il est privatisé là, le bois. Enfin, il appartient à l'ANDRA.
C'est ça.
Ouais, ouais, voilà.
Ok.
Donc ça, c'est le point de vue. Ah oui, il y avait aussi une autre chose, c'est que on a découvert récemment un site archéologique potentiellement majeur, pas loin du projet d'enfouissement. Et chose
ça,
assez.
Ça peut bien retarder les choses. Ouais.
Chose assez cocasse. Les archéologues ont monté une pétition pour dénoncer, en fait. Alors je m'y connais pas trop en archéologie, mais il y a l'agence départementale qui a refusé d'analyser le site entièrement, donc partiellement. Et apparemment, c'est un scandale dans le milieu puisque ce serait un site majeur. Et nous, cet été, justement, on voulait aller manifester jusque-là le 15 août et on en a été empêchés par la police. Et on en reparlera du 15 août. Mais ça, c'était pour faire ça, en fait, la manif. Et on n'a jamais réussi à l'atteindre. Et on s'est pris plein de flashballs et de grenades. Voilà.
D'accord, donc pour l'instant, il y a ce bois. C'est ouais. Ça, on en est là. Mmh. Bon, ça va. Ils n'ont pas encore commencé trop loin. Et on voulait savoir qui c'était les opposants au projet. Est-ce que c'est plusieurs collectifs? Est-ce que vous avez créé un collectif unique?
Sur place
ou... Ouais, sur place.
Sur place, ça brasse...
Ça brasse pas mal de
gens. Ça brasse plein de gens. T'as des gens qui viennent un peu de toute la France soutenir, soutenir cette lutte. Tu as des associations, donc un engagement un peu plus légaliste ou citoyeniste. En fait, c'est la confrontation de différentes méthodes d'action aussi. Et puis, il y a les locaux, bien sûr, les habitants. Donc, comme Jean-Pierre qui a prêté son tracteur... Donc en fait, c'est un brassage de monde un peu différent qui se côtoient et qui apprennent à s'organiser ensemble. Monde rural, monde militant, monde... Et finalement, à la lutte permet aussi de brouiller les frontières. Et c'est ça qui est intéressant sur place.
Donc on va parler des infrastructures qui ont été mises en place par cette opposition. Donc ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une occupation du bois Lojuc. Mais il y a aussi une maison de la résistance. Il y a dans les villages alentours des habitats qui sont occupés également. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux un petit peu de comment ça se passe au niveau de l'opposition?
C'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans cette lutte, c'est que il y a certes l'épicentre de la maison de la résistance, qui est une ancienne ferme qui est devenue du coup lieu d'accueil des opposants opposantes. En même temps, il y a ce bois Lojuc qui est occupé, donc avec de plus en plus de cabanes qui s'y construisent. Il y a même du coup une cabane des associations qui s'y est construite récemment. Et puis voilà, à Biencourt, à Mandrembarois, il y a des maisons qui s'achètent, des appartements qui se louent. Et en fait, du coup, la lutte s'étend, forme un réseau. Il y a la gare aussi, avec un champ squatté qui est cultivé.
Ouais, parce que ça ne comprend pas que la commune de Bure, ça prend ça. 3 ou 4 communes aux alentours.
Et du coup, justement, ça permet de redonner de la vie à cet ensemble de villages, quoi.
Alors, tous ces lieux occupés, c'est des lieux qui sont occupés et reloués par des gens qui viennent d'ailleurs, en fait, si je comprends bien.
Pour la plupart, oui. Pour la plupart, des gens qui sont venus parfois une fois et qui sont revenus encore, en restant à chaque fois un peu plus longtemps, et puis qui ont été séduits par ce qu'ils y ont vécu. Et notamment le camp VMC, il y a quelques années, avait permis de rallier plusieurs personnes qui ont décidé de s'installer à ce moment-là. Après, le bois, ça fait 2 ans qu'il est occupé. Mmh. Et donc, des gens qui aussi décident de vivre en forêt, de changer leur mode de vie habituel pour vivre en pleine... plus proche de la nature, au final. Enfin, il y a aussi cette dimension-là.
Il y a une victoire juridique aussi sur ce bois où l'Andra avait voulu monter un mur qu'ils ont été obligés de détruire. Il y a eu quelques victoires.
Ouais. Ah oui, bien sûr. Ça a été un moment fort de la lutte en août dernier. Mmh. Un moment collectif intense qui a justement permis de resserrer les liens des manifestants. Ouais.
On va peut-être parler de l'événement le plus marquant dernier, c'est-à-dire la grosse intervention policière qui a eu lieu donc sur la commune de Bure le 20 septembre dernier. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui s'est passé? Nous, on le sait, mais est-ce que vous avez un peu plus d'infos que nous sur cette perquisition géante?
Moi, personnellement, j'y étais pas. Après, j'avais plusieurs amis qui m'ont raconté. Mmh. Ça a été assez traumatisant parce que...
Est-ce que tu peux t'approcher un petit peu plus du micro, s'il te plaît?
D'accord. Au petit matin, les gendarmes mobiles qui débarquent, qui font sauter les portes des maisons, des caravanes au pied de biche, donc les copains qui se retrouvent...
Ces perquisitions dans les bois, les maisons
Les maisons surtout.
Maisons particulières, quoi.
Oui, domicile privé, appartement, caravane et la maison de la résistance avec du coup ordinateur, portable, livre, clé USB, imprimante.
Saisie de tous ces objets, saisie de tracts également.
Saisie, oui. Mm-hmm.
Vide de caravane brisée, j'avais une personne en garde à vue et des dizaines de personnes malmenées, quoi.
C'est ça, avec un réveil pistolet aux tempes, c'était violent, quoi. Mm-hmm. Ça a laissé des séquelles et c'est leur but, hein, c'est mm-hmm. de... c'est de instaurer un climat
de peur,
de pression et de
Ouais, pour décourager, et du coup avec tout le contingent habituel de la police et le mépris, l'agression verbale, enfin ce qui est pas du tout étonnant, de toute façon une perquisition ça se passe rarement.
Et sur quel est le motif de la perquisition, qu'est-ce qu'il y a eu des suites là-dessus?
C'était un motif par rapport à l'histoire qu'il y avait eu cet été aussi d'un début d'incendie dans le restaurant qui est sur le site de l'Andra.
Ouais.
Des personnes suspectées d'y avoir participé, mais pour l'instant le dossier, enfin il n'y a pas grand chose dedans quoi.
Ok, sur une enquête de ce type-là.
Enfin c'est, en fait il y a une militarisation du secteur et une pression, parce que c'est un enjeu, faut se rendre compte de l'enjeu très fort. C'est le nucléaire, c'est l'électricité, c'est les grands industriels de France. Si on peut pas se débarrasser des déchets, on peut stopper la filière du nucléaire, donc stopper aussi le productivisme. Enfin ça peut aller très loin. Donc c'est
stopper le stockage, c'est stopper la production.
Oui, voilà. Mmh. Ils sont à cran, quoi, par rapport à ça.
Ouais, et puis il y a une pression au niveau... Enfin, ouais, par la présence militaire, ça met une pression sur tous les opposants. Est-ce qu'ils commencent à changer par votre présence au niveau local? C'est-à-dire que les gens, les habitants, commencent à un peu... s'exprimer sur...
Il y a une solidarité très forte
une voix, quoi.
Des villageois, même des personnes qui sont pas forcément politisées au sens où on l'entend de connaissances historiques ou politiques, etc. Non, mais il y a un soutien, une entraide, et même des gens qui au départ ne voyaient pas trop où était le mal, finalement voient comment ça se passe, comment les flics agissent et se mettent du côté des opposantes et des opposants. Ils sont maintenant aussi des opposants et opposantes.
Du coup, ça entraîne aussi une modification finalement des soutiens locaux.
Oui.
C'est intéressant cette rencontre-là.
Oui.
Entre des gens qui aussi, j'imagine, circulent entre différents lieux d'occupation. Hein, ça va, c'est pas que Bure, du coup, c'est aussi d'autres lieux d'occupation un petit peu dans toute la France.
Oui, bien sûr.
Et au niveau justement de la position des maires des communes concernées par le projet, et quelle est-elle?
Elle est variante.
Il y a de tout.
Elle est variante et puis on sait qu'il y a des mères en situation de conflit d'intérêts, qui ont leur famille, qui travaillent au laboratoire. Et c'est aussi que l'Andra cherche à gagner la bataille. C'est en employant sur place et en arrosant le territoire d'argent. Donc ces mères se trouvent avec... avec de l'argent chaque année, des millions d'euros pour leur commune. Donc, ils sont souvent dans cette situation de contradiction, quoi. Après, il y a des maires qui décident de soutenir la lutte. Ça dépend des villages.
Il y a quand même des maires qui soutiennent.
Oui, oui, il y en a.
Parce que les maires ont dû changer, j'imagine, depuis 20 ans. Il y en a eu plusieurs. Il y a dû avoir des maires qui ont soutenu le projet, d'autres peut-être qui sont arrivés après et qui ont lutté, quoi.
Tout à fait.
Et pour revenir un peu sur les violences policières, c'était pas la première fois parce qu'on en parlait hors antenne, mais le 15 août dernier, la gendarmerie, c'était donc la manifestation pour le projet archéologique, c'était ça? C'était ça la base de cette manif?
C'était pour le mettre en lumière.
Ouais, ok. Et donc là, les gendarmes ont utilisé canon à eau, grenades assourdissantes et gaz lacrymo contre les manifestants. Il y a eu plusieurs blessés légers, dont un grave qui s'est pris une grenade assourdissante sur le pied, qui a perdu ses orteils.
Il n'a pas encore... On attend le diagnostic du médecin, mais pour l'instant, il n'est pas encore mutilé. Mais oui, c'est très très grave.
Donc Sarah, toi, tu y étais?
Oui.
À cette manifestation. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le début, le déroulement de ces événements et après de ces heures avec la police?
On a commencé par manger à la salle des fêtes qui est flamboyante, la salle des fêtes de Bure, donc 92 habitants, flamboyante. C'était aussi une manière de se retrouver.
Hein.
Oui, voilà. Mais il y avait des caméras qu'on a enlevées. Bon, bref. Et des RG aussi qui étaient là, mais pas du tout discrets. On a mangé très très bien, vegan et gratuit. Et je dis ça parce qu'il y a aussi du positif là-dedans, c'est qu'on se retrouve tous ensemble et on sent qu'on est une force et qu'il y a une cohésion, quoi. Puis on part, la plupart on connaissait pas le trajet ni rien, mais bon, on veut sortir du village et là, barrière de policiers, camions, on peut pas passer, donc on essaie de faire un détour, on a marché très longtemps, peut-être pour 45 minutes, une heure, donc déjà arrivé par un autre côté du site archéologique. Ça nous a bien fatigués. Et en bas, du coup, il y avait un camion à eau qui nous attendait. Des charges, quoi, lacrymo, etc. Et là, il a commencé à y avoir des personnes blessées. Et on essayait de remonter. En fait, nous, on voulait juste aller là-bas. On avait décidé de poser un bar en paille et distribuer des boissons. C'était, voilà, histoire de
pacifique, quoi.
Oui, enfin, après... je pense qu'on veut du pacifisme, mais enfin, l'idée première, c'était surtout ça, quoi. Et en fait, les flics nous ont chargés à fond. On a dû remonter, parce qu'en fait, c'est très vallonné, Bure, à cet endroit-là. Du coup, à quelques mètres près, on ne peut pas voir ce qu'il y a devant nous. Donc, on s'est retrouvés vers les hauteurs. Et là, il y a eu encore de nouveau des charges. Mais alors qu'on était très loin, normalement, il n'y a pas de normalité là-dedans, mais stratégiquement, j'imagine que les flics, ils doivent charger quand ils se sentent en danger. Ouais. Sauf que, il n'y avait pas de raison. Enfin, ils sont tellement surprotégés que même si on lance, une connerie, ça leur fait rien, quoi. Mmh. Donc, faut arrêter toutes ces choses. C'est vraiment pour dissuader les gens de lutter. Voilà, et donc les dernières charges ont été les plus violentes. Ils se sont lâchés, je pense qu'ils avaient un quota de grenades à envoyer ce jour-là, et ils sont bien allés jusqu'au bout. D'ailleurs, sur VMC Camp, vous pouvez voir, il y a une photo qui montre l'ensemble des projectiles utilisés, et c'est assez impressionnant, sachant que, je ne sais plus combien on était, peut-être 200, mais bon... Bref, enfin, c'est une petite manif, quoi.
Ouais.
Vraiment. Puis il y avait une famille, il y avait des personnes de tous les âges. Mmh. Enfin, voilà, quoi. Non, c'était ultra violent. Et il y a eu même une ambulance qui a été empêchée de passer par les flics. Parce que, oh oui, il y a une équipe médique à Bure qui est... Enfin, on est très bien organisé, quoi. Et elle avait été empêchée de passer. Enfin, bon, bref. Et ah oui, et donc, Robin qui a été... blessé très, très gravement aussi, s'est fait interroger directement à l'hôpital aussi par les flics. Il n'y a même pas de trêve par rapport à ça. Donc psychologiquement, lui, il a pris cher aussi. Ouais. Voilà.
Et depuis donc ce septembre, il n'y a pas eu de manif. Vous n'avez pas fait d'autres manifs?
Non, il me semble avoir vu... moi, je suis allée à Bure deux fois. Mm-hmm. Je ne me considère pas comme... Ouais. Étant de Bure, mais je suis très régulièrement les infos. Et il me semble qu'il y a eu une manif de soutien justement pour Jean-Pierre, qui était en procès pour avoir prêté son tracteur. Et il a pris donc 5 ans de mise à l'épreuve et une amende. Voilà, il y avait une manif à côté. Mais pour l'instant, c'est plus comment concentrer la résistance dans le bois pour passer l'hiver, parce que ça va être très difficile en hiver et qu'il y a une grosse pression.
Ok. T'as pas une question, Nelly? Non. Je crois que je te regardais.
Si, quelle est la position là-dessus avec le nouveau gouvernement? Est-ce que notre ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, est-ce que lui, il a pris une position particulière concernant Cigéo?
Alors, il y a la petite anecdote, là on sourit tout de suite parce que c'est très drôle. On a, dans les archives, avant qu'il soit ministre, on a une photo de Nicolas Hulot tenant un panneau non à Cigéo. Donc c'était quand il était président encore de sa fondation. Pour l'instant, il ne s'est pas exprimé par rapport à ça, mais là, au vu des annonces qui ont été faites hier, comme quoi il y avait un report de la diminution de la part du nucléaire dans le mix énergétique, on sent que c'est pas favorable du coup à l'empêchement, à l'annulation du projet Cigéo. Et puis de toute façon, c'était juste en 2035, c'était de réduire à 50%, mais déjà 50% nucléaire, c'est quand même trop. Mmh. Bon bref, du coup, c'est clairement pas, c'est mal parti pour nous, les opposantes et les opposants. Ouais.
Ouais, donc il dit un peu rien, quoi.
Il fait l'autruche, c'est d'une irresponsabilité politique crasse de ne pas se prononcer sur ce projet qui est démentiel et si important pour des dizaines de milliers d'années à venir, de ne pas se prononcer là-dessus, c'est...
Ouais, c'est un peu fou. Ouais.
C'est complètement fou.
S'il s'est prononcé sans se prononcer, c'est que j'ai vu, quand on lui a posé la question, et donc le site d'enfouissement, machin, il a dit « j'ai pas le temps pour l'instant, je vis au jour le jour, il y a des priorités, et donc ça je verrai plus tard ». Voilà.
C'est pas sa priorité.
Alors justement, puisque on évoque juste l'importance de cette question-là et la question du nucléaire de façon un petit peu plus globale, quelles sont les alternatives à l'enfouissement des déchets. J'imagine que les personnes de Bure présentent aussi cette solution-là. Quelles sont les alternatives ?
Il y en a plusieurs. La moins pire, on pourrait dire, c'est les enfouir là où ils sont produits. Donc, non pas à 500 mètres sous terre, mais plutôt en subsurface. Ce qui permettrait de ne pas avoir des convois dans toute la France de déchets radioactifs avec tous les risques que ça comporte. Ça, c'est la solution qui est la plus étudiée aujourd'hui.
C'est ce qui est déjà présent là, sur une trentaine de sites de stockage, c'est-à-dire les centrales, c'est là où elles sont stockées pour l'instant, quoi.
C'est ça.
Et il y a une autre manière de répondre aussi à la question, c'est faut arrêter de produire des déchets, déjà, et à partir de là aussi, on voit ce qu'on en fait. Concentrer les crédits sur le retraitement des déchets existants, ce qui... Enfin là, pour l'instant, il y a beaucoup de crédits qui sont plutôt pour l'enfouissement. Donc il y a aussi une mauvaise volonté, une mauvaise foi de la part des... Enfin, je ne sais pas qui c'est qui donne l'argent pour faire la recherche, mais... d'État.
Donc du coup, il existe des solutions de retraitement de déchets.
Non, ce que je dis, c'est qu'il faudrait concentrer les financements sur ces recherches-là. Parce que oui, actuellement, il n'y a pas de retraitement, mais, ou en partie pour certains types de déchets. Je ne suis pas spécialiste par rapport à ça, je ne peux pas bien répondre, mais bon, y a des gens qui ont travaillé, des informations à trouver là-dessus, mais sur Internet. Mais non, ce que je dis, c'est qu'il pourrait y avoir une volonté dans ce sens, mais qu'elle n'est pas mise en place, quoi.
Voilà. Et là, pour sur le site de Bure, ça serait pour rassembler tous les déchets nucléaires du territoire français.
Oui, et même de certains autres territoires européens.
Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est ce qu'on avait commencé à faire à une certaine époque, à traiter les déchets pour d'autres pays. Donc ouais, ça serait la poubelle européenne en plus. Ça serait même pas pour résoudre notre problème national dans entre guillemets quoi.
Donc on a fait un petit point de la situation à Bure aujourd'hui et même un petit peu plus loin au niveau du nucléaire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Parce qu'avant de parler du collectif, on va faire une petite pause musicale. Mm-hmm. Est-ce que vous avez quelque chose sur des dates importantes ou des choses à évoquer là tout de suite ?
En rapport à Bure, du coup il y avait...
Par rapport à Bure, la chose que je peux ajouter, c'est aussi d'y aller si les gens peuvent, qu'ils voient de leurs yeux ce qui s'y passe, et aussi toutes les choses positives qui ont lieu en termes de chaleur humaine qu'on peut y vivre, de belles rencontres qu'on peut y faire, d'organisations collectives. Et c'est ça qui nous donne aussi, nous, l'envie de nous battre pour sauver ce territoire qui est sacrifié et sauver la vie qui a préservé et qu'on veut faire grandir là-bas. Peut-être, oui, une invitation à aller sur place.
Dans ce petit endroit reculé à l'abri de regards.
Quel a été l'élément déclencheur pour créer ce collectif ?
Ça a été les perquisitions à Bure le 20 septembre dernier qui ont généré en fait des manifestations de soutien devant les préfectures de plein de villes de France et dont celle de Toulouse. Et on s'est retrouvés devant la préfecture à être plusieurs à se dire ça serait bien de se réunir, de former un petit collectif pour soutenir et visibiliser cette lutte et la soutenir matériellement, mais aussi la visibiliser sur place.
Relayer l'info,
oui.
Et il y a eu plusieurs collectifs qui se sont créés dans toute la France, là.
C'est ça.
Il y en a eu, ouais. Vous savez combien il y en a à peu près ?
Peut-être une, je ne sais pas.
Les grosses villes, quoi.
Non, les grosses villes.
Pas que. Je sais qu'il y en a une à Florac. Non, ça a eu des répercussions fortes et en fait, en voulant nous affaiblir, et bien, ils nous, quelque part, ils nous renforcent et ils tissent un réseau de soutien un peu partout, quoi.
Puis ça a été rapide puisque les manifs devant les préfectures, c'était le jour même, quoi.
Tout à fait. L'info a été relayée très vite et.
Ouais. Je me souviens qu'on l'avait relayée, mais du coup, c'est cool que toute la France ait réagi, ouais.
Ouais.
Et vous, Sarah et Solène, comment avez-vous connu le projet CIGEO de Bure ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans cette lutte-là ?
Et moi, c'est parce que je suis branchée sur les infolutes en général, quoi. Du coup, j'avais vu passer plusieurs fois le nom, l'histoire, puis
je prenais connaissance de plus en plus. Puis, en février de cette année, on décide d'y aller avec plusieurs copines et copains en aller-retour, parce qu'il y avait une manif prévue. Et en fait, depuis, on y est retourné cet été pour... Il y avait les burlesques, festival organisé par les assos historiques. Donc qui s'est déroulé juste avant la manifestation du 15 août. Puis bon, on a vu comment ça se passait. Enfin, déjà, le projet en tant que tel est... Enfin, ça m'embête aussi de dire que c'est très grave et très important, parce qu'il y a énormément de luttes comme ça qui mériteraient qu'on dépense notre énergie. Donc je dis pas que Bure, c'est la plus importante, mais enfin, en tout cas...
C'est une des plus importantes.
C'en est une, et en tout cas, nous, on a senti des affinités... par rapport à ça, puis le fait que ce soit isolé, que tout ça, ça nous donne envie, ouais, que le monde entier le sache. Ouais. Et parce que quand c'est isolé, ça permet aux autorités de pouvoir faire n'importe quoi.
Et toi, Solène ?
Moi, j'avais déjà été à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, finalement, j'ai des amis qui habitent Bure, donc j'avais envie d'y aller depuis assez longtemps, et la première fois que j'y suis allée, du coup, c'était cette année, et ça avait été une expérience marquante pour plein de raisons. Je me rappellerai toujours la première nuit que j'ai passée dans le bois Le Juge, monter le petit chemin à la tombée de la nuit qui y mène, et de là, j'ai été face à un tableau très parlant. En fait, on voit Mandre et Bure, les deux petits villages très faiblement éclairés dans la nuit, et au loin, mais pourtant très présente, une espèce de grande plateforme lumineuse. Moi, je croyais que c'était un aéroport au début. Donc, j'ai appris que c'était le laboratoire de l'ANDRA qui pollue tout l'espace et est entouré d'un champ d'éoliennes qui clignote rouge. Et autour de ce champ, des champs de culture intensive. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai compris les mots de colonisation capitaliste, en fait. On a une pollution visuelle, une pollution chimique, une pollution maintenant militaire. Et en fait, ce territoire est en train d'être grignoté complètement. Oui, moi, ça m'a permis de mettre un sens concret à des idées un peu abstraites que j'avais, et de faire des belles rencontres. Donc, suite à ça, j'ai voulu plus m'y engager.
Et quels sont les objectifs de Bure Partout, Nucléaire Nulle Part 31, où, de toute façon, tous les collectifs s'appellent le collectif Bure Partout, Nucléaire Nulle Part, ou c'est juste le vôtre ?
C'est le nôtre.
Oui, on choisit chacun son nom. Par exemple, dans le Tarn, c'est les hiboux tarnés. À Lyon, c'est la clique des amis de Bure. Donc ça fait la CAB. Chacun y va de son petit jeu de mots.
Et alors, ça serait quoi les objectifs, mis à part relayer les infos de Bure ? Vous avez d'autres...
Alors du coup, faire relais, pourquoi pas organiser aussi des trajets en fait communs pour aller à des moments clés tous ensemble. Mis à part informer, pour l'instant c'est que ça. On s'est un peu construit dans l'urgence. Là, on a décidé de faire des événements, c'est au fur et à mesure aussi qu'on voit, parce qu'on veut d'abord rassembler un peu les gens autour de ça, et ensuite voir ce qu'on peut faire. On ne va pas décider trop à l'avance non plus.
Plus largement, c'est un collectif anti-nucléaire aussi, qui permet peut-être de renouveler la lutte anti-nucléaire et les assos un peu vieillissantes et lassées du coin. Parce que du coup, on a cette accroche avec Bure, qui est une accroche vivante et importante. Mais à partir de là, oui, c'est un collectif anti-nucléaire plus largement.
Bure, c'est juste le symbole de l'anti-nucléaire français aujourd'hui.
C'est le symbole, mais c'est aussi une prise concrète contre la machine nucléaire, parce que là, il y en a un projet qui est bloqué, donc on a une prise pour bloquer concrètement le nucléaire en ce moment même, quoi.
Alors, vous avez toute une série d'actions prévues dès ce soir et jusqu'à samedi, ensuite la semaine prochaine. Alors, ce soir, c'est à partir de ce soir jusqu'à samedi, c'est plutôt des infos kiosques.
Oui, alors présent à la chapelle, donc pendant la trilogie de Nicolas Lambert, on va être, parce qu'on est organisateur aussi de ça, parce que du coup, vendredi, il y a Avenir Radio, donc en rapport au nucléaire, c'est la pièce de théâtre. Et nous, on aura notre stand d'information.
ouais, kiosque, etc. Donc les trois jours à la chapelle. Et à partir de la semaine prochaine, il y a l'infotour, c'est des copines et copains de Bure qui viennent. Donc il y aura projection, discussion, un peu témoignage. Ouais, voilà.
Ouais, le samedi à la chapelle, du coup, vous êtes là toute l'après-midi.
Ouais.
Et ça commence à 15h avec les infos kiosques, avec d'autres assos.
Avec d'autres collectifs qui relaient des luttes. Plus dans la région.
Ouais, on peut les citer, il y a Survie 31, Non à Val Tolosa. Val Tolosa, c'est le projet de gros centre commercial de la Plaisance du Touche. Collectif de défense du quartier Papus. Voilà, donc vous serez quatre collectifs.
Il y a aussi la Massade.
Oui.
Ah, on ne les a pas tous. C'est bien que vous complétiez.
Transformateur éolienne dans l'Aveyron. Et le collectif contre la mine de Salaud aussi,
oui.
Qui sera là.
Il y aura une projection du film 317 qui parle des débuts de l'état d'urgence.
Ouais.
Voilà. Et donc
ça sera suivi d'une discussion avec les réalisateurs.
Voilà. Du coup, ces rencontres de lutte, quoi. Lutte de territoire ou lutte anti-répression.
Ouais. Donc ça, c'est à partir de 15h. À 17h30, ça sera la projection du film. Et puis 19h30, le dernier volet de la trilogie de Nicolas Lambert, Maniement des larmes. On est passé vite fait, parce que c'est vrai qu'on en a déjà pas mal parlé, vous êtes pas mal au courant, mais je vais le rappeler pour les auditeurs qui n'ont pas eu l'information. Donc, demain soir, c'est le spectacle de Nicolas Lambert. C'est un spectacle de théâtre d'investigation, Avenir radieux, une fiction française, où là, du coup, la thématique, c'est le nucléaire, revenir un petit peu sur tous les comportements et les secrets en fait d'État face à la question du nucléaire pendant ce spectacle-là. Et donc c'est à 19h30.
Et ce soir c'est la pompe Elf, la pompe Afrique, comme le rappelle le premier volet ce soir.
Sur la construction de la France-Afrique.
Et... ouais. C'est le rapport France-Afrique.
Et donc la semaine prochaine, vous avez la soirée de lancement du collectif Bure Partout, Nucléaire Nulle Part. Alors c'est ici, dans les locaux de Canal Sud. Comment on s'organise cette soirée?
Alors du coup, ce sera, on fait des invitations à plusieurs collectifs antinucléaires historiques toulousains. Il y aura l'infotour encore de Bure, dont je parlais tout à l'heure, qui sera présent. Ce sera auberge espagnole, c'est plus rencontre, discussion, c'est histoire de se retrouver autour de ça, voilà.
Donc ça c'est mercredi soir et la soirée commence à quelle heure?
C'est à 20h.
20h, oui. 20h.
Et le premier rendez-vous ça sera mardi, donc c'est mardi prochain et ça c'est à la fac du Mirail. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement à la fac? C'est midi 30, 14h.
Midi 30 à l'amphi 3 du coup de la fac Mirail. Donc là, il y aura aussi
Info-kiosque
et donc les opposants de l'infotour qui seront sur place, donc ils projetteront un petit film avec discussion, donc entrée libre. Et le dernier événement du coup, c'est le jeudi 16 novembre à 19h au local Picmill. Et donc les opposants au projet seront aussi là. Et donc on aura une cantine de soutien, c'est ça.
Ok, et il y aura un dernier rendez-vous. Ça sera en décembre, le 1er décembre, salle Sénéchal, pour la projection du film Into Eternity, suivi d'un débat. Et il y aura aussi, vous serez aussi présent pour l'info kiosque, c'est ça. C'est le dernier rendez-vous.
On va écouter la bande-annonce d'Into Eternity. Elle est en anglais, mais on la comprend quand même pour ceux qui parlent anglais.
Exactement.
Sinon, elle sera bien sûr sous-titrée, cette projection.
The world above ground is unstable.
Now in this place where you should never come. We call it Onkelo. Onkelo means hiding place. Onkelo must last 100,000 years. Nothing built by man has lasted even a tenth of that time span. But we consider ourselves a very potent civilization.
La bande-annonce d'Into Eternity qui sera projetée le vendredi 1er décembre à la salle du Sénéchal, rue de Rémisa. Alors, pouvez-vous nous présenter un petit peu ce film ?
Alors, Into Eternity, c'est un projet en... merde, j'ai un trou. Je crois que c'est en Finlande. Bon, bah bref, un des pays nordiques de là-haut, là. Ouais. Bref, j'avais pas trop bien préparé cette question.
C'est une question piège.
Voilà, mais enfin, ce que je sais, c'est qu'il y a un projet d'enfouissement là-bas qui est situé juste à côté d'une centrale nucléaire, donc il n'y a pas les mêmes enjeux en termes de contexte de territoire. C'est-à-dire que les gens sont déjà habitués à ce qu'il y ait une centrale, donc...
Ce qui change, c'est qu'ils vont l'enfouir, quoi.
Voilà, donc et il n'y a pas trop d'opposition et ce film aussi traite de questions alors quel héritage on laisse aux générations futures dans 100 000 ans, comment on peut être sûr que les gens sachent qu'il ne faut pas aller sur cet endroit où ça va être enfoui. Donc ça prend le parti de ça va être fait, donc qu'est-ce qu'on fait, les conséquences que ça peut avoir.
Quelles sont les solutions possibles et quelles sont les conséquences sur les milliers d'années à venir?
Alors, je sais que dans le cas de Bure, c'est que d'ailleurs l'Andra fait encore des tests par rapport à ça. C'est l'érosion en fait les produits radioactifs vont éroder la coque de protection et vont s'insinuer dans la couche d'argile et peuvent remonter en fait au bout de tant d'années. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est pas grave parce qu'il y aura un filtre et que ça va pas être beaucoup. Mais sauf que ça ne parle pas des risques d'incendie, d'explosion, d'effondrement ou de mouvements tectoniques. Et aussi, par exemple, c'est ce qui peut se passer donc, dans les fameux pays nordiques. C'est qu'il peut y avoir aussi changement brusque, glaciation ou réchauffement. Et on ne sait pas à quel point le territoire sera stable. Donc c'est vraiment faire des paris irraisonnables. Paris, quoi.
On en est là.
Ouais.
On va peut-être conclure avec les infos. Comment on fait pour rejoindre ce tout nouveau collectif? Est-ce qu'il y a des liens internet? Déjà, c'est de venir sur l'infotour.
Oui,
première étape.
Ouais, l'infotour, ça serait, on serait content d'avoir des nouvelles têtes. Et puis sinon, il y a Bure Partout, Nucléaire Nulle Part 31 sur Facebook.
Ouais.
Adresse mail donc Bure Partout nnp@riseup.net. Puis oui, il n'y a rien de tel que le contact humain, faire des choses ensemble, faire des propositions, se voir, réfléchir à comment lutter ensemble.
Oui. Sachant que on est un collectif tout frais, donc toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre.
Tout le monde est le bienvenu.
Tout à fait.
Même les mauvaises. Donc je rappelle, vous serez à la fac du Mirail de midi 30 à 14h, amphithéâtre 3, c'est ça si je dis ça de tête. Ça sera mardi prochain. Mercredi, ça sera la soirée officielle de lancement du collectif, donc dans nos locaux, au 40 rue Alfred Duméril à Canal Sud. Ça sera à 20h. Et le lendemain, le jeudi, au local Piquemille à 19h. Voilà pour l'infantour et la cantine de soutien. Et le dernier rendez-vous, donc avec la projection d'Into Eternity, vendredi 1er décembre à la salle Sénéchal, c'est rue Rémusa. Voilà, et donc il y aura un débat après la projection du film. Eh bien, merci d'être venu dans nos studios vous présenter.
Merci à vous,
merci beaucoup.
Et puis on souhaite longue vie au collectif, courte vie au collectif.
Mort au projet CIGEO.
Voilà, mort au projet CIGEO, c'est plus clair.